Radio Scénique, Éric Deterre, bonjour. Elles, ce sont des championnes de la nage. Eux, ce sont des virtuoses du piano et du violon. Il et elle représentent deux spectacles aux tonalités foncièrement différentes, mais nous les avons réunis aujourd'hui car nous avons aimé ces deux pièces dont nous allons parler aujourd'hui. Avec Nage Libre au studio Eperto, nous faisons la connaissance de trois ex-championnes de natation à Vienne. Elles se retrouvent 59 ans après avoir dû quitter Vienne, leur ville. La raison de leur exil, le simple fait qu'elles soient juives sous un régime qui avait décidé de la solution finale. Lisa Wurmser a décidé de mettre en scène le sort de Rachel, Esther et Anna. Leur retour à Vienne est accompagné par l'étrange Monsieur Lust. La metteuse en scène est avec nous au studio. Elle est venue avec Nicolas Struve, qui incarne Monsieur Lust. Eux sont frères. Les virtuoses, car c'est leur nom, présentent un spectacle musical en pleine tempête. Deux pianistes acrobates du clavier sont un jour confrontés à une violoniste à l'archet combatif. S'ensuit un spectacle réjouissant. On retrouvera Mathias et Julien Cadez en compagnie d'Anna Gagneur, les protagonistes du spectacle en deuxième partie de cette émission. D'ailleurs, restez à l'écoute, car il y a deux places pour une personne à gagner pour leur spectacle. Aujourd'hui dans Radio Scénique, c'est Enrico Mastrogiovanni qui est au mixage et c'est Pierre Demkov qui m'a assisté. Il a également concocté le programme musical de ce Radio Scénique. Vous avez le programme de cette 30e, et oui, déjà 30e édition de votre magazine du théâtre sur Allegre FM. Alors, éteignez vos portables, baissez les lumières. Radio Scénique, c'est parti.
Radio Scénique par Éric Deterre.
Nous sommes
le théâtre sur Allegre FM.
Ah oui, j'allais un peu vite, mais nous sommes au studio Eberto. Sur le petit plateau, une table et des chaises de bistrot. Trois femmes, très différentes, mais apparemment complices, se retrouvent dans ce qu'on croit être un café ou un cabaret, on ne sait pas bien, sous l'œil bienveillant d'un mystérieux maître d'hôtel. Francine Berger, Flore Lefebvre-Desnoëttes, Bernadette Le Sachet et Nicolas Struve sont dans la distribution de Nage Libre. On en écoute un extrait.
Une journée de septembre après l'orage. Vienne, 1995.
Ah, le charme de la vie à Vienne, un délice. La douceur de vivre, les valses, le café viennois, les viennoiseries. Vienne, c'est comme un vieil amant que j'ai cessé d'aimer. Je le connais par cœur et je ne l'aime plus. Allégria, allégria, allégria. Tu es splendide, Rachel.
Nous avons un peu changé.
À peine. Juste un peu.
Heureusement.
À l'idée de vous revoir, ma nuit était très agitée. Je pensais à tout ce que j'allais vous raconter. Et ce matin, au réveil, j'ai tout oublié.
J'ai apporté un maillot de bain spécial pour l'occasion.
Wow.
Je n'ai pas pris un gramme, je fais toujours un 38, mais j'enlèverai le peignoir au dernier moment.
Mais c'est fini. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus. Il n'y aura plus de fascisme.
Non, plus de fascisme. Plus jamais, c'est une évidence.
D'après moi, il faut quand même préparer ses valises. Hein?
Comme une femme endormie reste aussi jolie. Et le talus devient très bleu. Et le stade-pas serait plus vert. Que ça serait mauvais sans les Viennois.
Papa, qu'est-ce que tu penses? Tu crois que je devrais aller à Berlin aux Jeux Olympiques? Écrit partout, dans les parcs, les cafés, les piscines. Interdit aux chiens et aux juifs.
Lisa Wurmser, bonjour.
Bonjour.
Ce sont donc trois femmes que vous mettez en scène dans Nage Libre au studio Eberto. Trois femmes qui se retrouvent 59 ans après avoir dû quitter leur pays, l'Autriche. Leur point commun, elles sont juives. Elles ont été membres d'un club sportif à Coa.
Oui, et leur point commun surtout, c'est d'avoir dit non aux Jeux Olympiques de 1936, qui étaient donc dirigés par... sous l'œil d'Hitler, donc elles n'ont pas voulu faire la compétition. Donc elles ont ensuite été pourchassées et elles ont dû fuir leur pays à cause de ça. Et ensuite, elles ont été destituées de leur titre, de tous leurs records précédents.
Alors c'est une histoire vraie pour laquelle vous avez modifié le nom des protagonistes,
oui,
je crois.
Oui, parce qu'il y avait trois championnes qui étaient Judith Deutsch, Ruth Langer et Lucie
Goldner.
Lucie Goldner, et ces trois femmes ont en effet décidé de suivre l'héroïne principale qui était Judith Deutsch à l'époque et qui était la plus grande championne et qui avait gagné tous les records.
Alors quand on les retrouve, elles ont respectivement dans les rôles 75 et 80 ans. Alors on va tout de suite le dire, ce spectacle est joué par trois magnifiques comédiennes âgées.
Âgées, et belles et dynamiques et drôles, je voudrais dire aussi. Parce que ce qui m'avait frappé dans le documentaire dont je me suis inspirée, qui s'appelle Watermarks, c'est que ces femmes, elles étaient 8, hein, elles sont 8 à venir à Vienne. Elles étaient extrêmement spirituelles, très élégantes. La tragédie était toujours à l'arrière. On était toujours un peu sur la crête. Et c'est ça, moi, que j'ai voulu restituer dans le spectacle.
Alors, parlons de ce trio. Elles se sont quittées jeunes filles et les voici femmes, des femmes âgées, mais coquettes. Elles minaudent même parfois. On a envie de dire, effectivement, elles minaudent, elles font un peu de la retape. On l'a entendu tout à l'heure, la plus grande, qui est jouée par Francine Berger, qui vient des États-Unis.
Mais parce qu'elles ont un rapport au corps qui est assez particulier, puisqu'elles sont dans scène sportive. Donc elles ont encore un entraînement qu'elles continuent d'avoir. Par exemple, Francine Berger, c'est quelqu'un qui, pendant une heure chaque jour, danse et fait des étirements. Elle va avoir 88 ans. Donc c'est vraiment merveilleux de voir la vivacité, l'intelligence, la souplesse d'esprit aussi. Parce qu'il faut vraiment avoir un esprit très ludique pour pouvoir faire tout ça.
Alors j'ai mentionné un homme qui est le mystérieux Monsieur Lust, hein, et qui est joué par Nicolas Struve. Nicolas Struve, c'est qui ce Monsieur Lust qui les accueille, hein, avec un peu de retrait parce qu'il est maître d'hôtel, très chic.
Oui, c'est un personnage à multiples facettes et il y en a tant que le public... c'est à chacun de faire son Monsieur Lust. Monsieur Lust, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a été témoin de crimes et qui avait 10 ans et qui n'a rien pu faire. Et une famille toujours un peu... Enfin, l'Autriche, tout le monde était un peu... était obligé de supporter le régime nazi. Donc tout le monde s'est un peu compromis, plus ou moins. Et cet enfant... Cet enfant a vu ses crimes et n'a rien pu faire et depuis, je suppose qu'il porte une certaine culpabilité.
Alors il la porte sans la porter. Vous l'avez dit, les Aveumser, ce n'est pas un spectacle pesant, ce n'est pas un spectacle grave. C'est un spectacle dans lequel elles reviennent avec leur cadavre. Il y a l'une d'elles qui dit qu'il y a une phrase magnifique, nous avons hérité de spectres. Parce qu'elles sont revenues, mais tant d'autres ne sont pas revenues.
Oui, surtout la caractéristique du club Aqua, c'est qu'en fait, le département de natation a été sauvé entièrement. Alors que tous les autres sports du club, les sportifs ont été assassinés. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'entraîneur de natation qui a fait sortir, et ça c'est une réalité, tous les nageurs et nageuses du club. Donc ils ont tous été sauvés en termes de natation.
Ils sont tous revenus. Parmi ces trois personnages, on a parlé du personnage de Monsieur Lust, et dans ces trois femmes, il y a la coquette, il y a la timide et il y a l'expansive. Parlez-moi un peu de ces personnages et ce trio de comédiennes. Elles sont assez indissociables parce que vous avez utilisé leur caractère aussi.
Je voulais absolument rentrer dans les détails de leur personnalité parce que c'est important. Mon maître, c'est vrai, c'est Tchekhov, alors je ne vais pas me comparer, mais il a un art de décrire les personnages vraiment dans les détails.
Ce ne sont pas trois sœurs, mais presque.
Ce ne sont pas trois sœurs, mais presque. Et je trouvais ça très important de rentrer aussi dans le parcours de vie, parce qu'elles ont ce qui est assez beau, je crois, c'est qu'elles ont une vie très différente, chacune d'entre elles, alors qu'elles sont parties de la même origine et de la même ville.
Alors, on a parlé de la première, jouée par Francine Berger, qui est très expansive. Il y a aussi celle qui est toute en vie, qui danse, elle vient d'Argentine.
Oui, c'est Anna, le personnage d'Anna, qui, elle, est très exubérante, mais qui n'a pas beaucoup d'argent, en opposition à Francine Berger qui joue le rôle de Rachel, qui, elle, a bien réussi dans la mode. Et donc,
Anna, c'est Flore Lefèvre des Nouettes.
C'est Flore Lefèvre des Nouettes. et Francine Berger, c'est Rachel, et Bernadette Le Sachet joue Esther.
Alors, moi, je dois avouer avoir une tendresse particulière pour son personnage, parce qu'elle est toute timide. Alors, elle a choisi de faire son allié, elle est partie en Israël, elle est bibliothécaire, elle a une vie relativement modeste.
Elle est institutrice.
Oui. Elle est relativement modeste, et elle a cette petite voix qu'on a entendue tout à l'heure, c'est l'inquiétude incarnée.
C'est l'inquiétude, oui, mais c'est aussi une apparente légèreté. C'est ça que je voulais absolument respecter, c'est qu'elles ne sont jamais pesantes. Il y a vraiment une sensation comme ça d'apesanteur, et ça, je trouve ça beau au théâtre de voir ça.
Nicolas Struve, votre rôle est un peu en retraite, ce trio incroyable de comédiennes. Cependant, vous arrivez à trouver votre place comme fil conducteur de l'intrigue.
Oui, oui, c'est un grand plaisir d'abord de jouer avec ces trois comédiennes et ce beau texte. Et c'est un très grand plaisir de s'amuser à faire celui qui est à la fois absent et très présent, puisque le lieu, c'est le sien. Parce qu'il rythme aussi par ses apparitions, cette surpolitesse qu'il représente en tant que maître d'hôtel me fait beaucoup rire.
Vous êtes énigmatique au début, hein. On sait pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire à part apporter des pâtisseries qui n'ont plus le goût d'antan, disent les trois femmes qui ont quitté Vienne il y a 59 ans, qui sont moins bonnes que celles qu'on trouvait chez la pâtissière dont j'avoue avoir oublié le nom.
Madame Finkel.
Chez Madame Finkel qui faisait d'excellents strudels et maintenant rien n'a le même goût. En fait, vous êtes porteur de la continuité parce que vous, votre personnage, ce monsieur Lust, n'a jamais quitté Vienne.
Non, il n'a jamais quitté Vienne. Il a grandi dans la Vienne d'après-guerre, à la fois sous la guerre, pendant la guerre et dans l'après-guerre, une espèce de misère autrichienne dont on voit des exemples dans les films d'Axel Corti. Je ne sais pas pourquoi je cite ce truc-là, qui est magnifique. Et puis voilà, il a grandi dans cette société autrichienne et il est partagé entre, je suppose, des convictions très autrichiennes, pas très sympathiques, et effectivement un attachement à cette jeune femme qu'il a connue enfant et dont il était sans doute un peu amoureux avec ses 10 ans, etc. Et cette contradiction qu'il habite en fait un personnage aussi assez vivant et à sa façon exubérant et bizarroïde et aussi drôle en fait.
Lisa Wurmser, c'est pas facile de distribuer un personnage absent-présent, une espèce de ligne. Alors plus que ligne, c'est un pointillé dans l'action.
Oui, parce que Nicolas, nous avons déjà pas mal joué ensemble et je trouve que je voulais absolument un personnage qui hésite, hein. Il n'est pas vraiment mauvais, mais bon, il hésite entre plusieurs choses, il est toujours un peu entre oui et le non, il va du côté quand même, du pouvoir, du côté, mais il n'est pas vraiment fixé, et en même temps, il est un peu, en même temps, il est aussi mélancolique, il n'est pas seulement, mais il a beaucoup d'hésitation, il ne sait pas exactement, il balance entre plusieurs. Et je crois que je tenais vraiment à ce personnage un peu double, un peu énigmatique. On ne sache pas vraiment ce qu'il a fait, pas fait. Et en même temps, il représente, je crois, la conscience, en fait.
Oui, parce que votre pièce se passe en 1995. 1995, c'est l'année où l'Autriche a bredouillé des excuses.
Oui, parce qu'ils ont pris la tête de la Commission européenne. Mais les excuses sont par rapport à la Shoah sont pas du tout présentes en Autriche. Moi, je suis allée chercher des archives au musée juif de Vienne, les archives qu'on voit à la fin du spectacle. Et j'ai beaucoup parlé justement avec le directeur. Il n'y a pas beaucoup de repentir.
Pour les auditeurs, il est important de distinguer l'Allemagne et l'Autriche. L'Allemagne a fait absolument son devoir de mémoire. Elle a présenté la Shoah dans la capitale, notamment. Il y a des monuments à chaque coin de rue qui évoquent la Shoah. Et il y a un musée juif, un des plus beaux musées juifs au monde. Par contre, l'Autriche, c'est du bout des lèvres que c'est fait le mea culpa.
Oui, c'est du bout des lèvres. Et encore aujourd'hui, on a quand même des panneaux sur certains cafés qui sont écrits « pas de groupe, pas d'étrangers ». Enfin, je veux dire, c'est quand même très présent.
Alors, il n'y a pas de nostalgie dans ce spectacle pour ces trois comédiennes. C'est la haine antisémite qui a percuté leur jeunesse. Il y a juste un tout petit peu de mélancolie que vient souligner la musique et une superbe chanson interprétée en yiddish. On l'écoute.
Shame. Lichtig wie die Sterne von Himmel matune, bist du mir zugeschehen, mein Glück hab ich gefunden, wenn ich hab dich gefunden. Schein wie tausend Sonnen hast du mein Herz beglückt. Deine Zändelech weiß wie Perlech mit deinen schönen Augen. Deine Händelech, deine Herrlech hat mir zugezeugen. Schein wie die Levune, dich dick wie die Sterne. Von Himmel am Tune bist du mir zugeschehen. Deine Zändelech weiß wie Perlech mit deiner scheinen Augen. Deine Händelech, deine Herrlech hat mir zugezeugen. Schein wie die Levune, lichtig wie die Sterne. Von Himmel am Tune bist du mir zugeschehen. Von Himmel am Tune bist du mir zugeschehen. Von Himmel am Tune bist du mir zugeschehen.
Aligre FM 93.1.
Nous sommes avec Lisa Wurmser dans Radio Scénique. Lisa Wurmser est autrice et metteuse en scène de Nage Libre et avec Nicolas Struve qui joue toujours les tenants et énigmatiques Monsieur Struve. Lisa Wurmser va revenir sur cette chanson yiddish. Voilà, je vais citer juste les paroles. Aussi belle que la lune, aussi radieuse que les étoiles, tu es un cadeau du ciel qui m'a été envoyé. J'ai eu de la chance quand je t'ai trouvé, aussi belle que mille soleils, tu as réjoui mon cœur. Et ensuite, elle dit, je réfléchis à la façon de te dire que tu es aussi belle que la lune, aussi radieuse que les étoiles, tu m'as été envoyé du ciel comme un cadeau.
C'est une très ancienne chanson yiddish. Et Izula, qui la chante, donc parlait pas du tout yiddish, donc elle a vraiment travaillé avec Eric Slabiak, qui a composé la musique, pour avoir l'accent exact, parce que c'est un accent très particulier, et je tenais beaucoup à ce que ce soit très pur, très simple, mais je trouve que c'est une très belle chanson.
Alors on ne révélera pas de quoi il s'agit, parce que c'est une chanson dont la beauté des paroles et la simplicité s'oppose frontalement à l'horreur de la Shoah qui évoque cette chanson. Parce que cette jeune fille, cette chanson qu'on entend, elle a été chantée dans le cabaret de Monsieur Struve quand il était petit. Quand il avait 10 ans.
De Monsieur Loust.
De Monsieur Loust, pardon, Monsieur Struve.
J'aimerais bien que ce soit le mien.
Monsieur mais... Struve, c'est vous-même.
oui, dans les années 40, pendant la guerre, Mélanie chantait cette chanson. C'est assez singulier, mais c'est ainsi, voilà.
Et c'est évocateur. Avec la retrouvaille de ces trois femmes, émerge aussi en filigrane la culpabilité de ceux qui ont survécu vis-à-vis de tous ceux et toutes celles qui n'ont pas eu cette chance et ont été déportées. Ça, c'est quelque chose que vous envoyez en filigrane via deux répliques. J'en ai cité une tout à l'heure. Nous avons hérité de spectre, dit l'une. J'ai envie de vivre et c'est pas tous les jours, pas tort qu'une autre.
Parce que je voulais absolument pas être pesant là-dessus, parce qu'il y a déjà assez de personnes très extraordinaires qui ont parlé de ça. Et donc je voulais justement donner une vision différente. Je voulais justement savoir comment on vit en exil quand on a vécu ça. Je voulais parler de la langue étrangère, je voulais parler de tout ça et évidemment de la montée de l'extrême droite. Donc je voulais pas m'apesantir sur, je voulais que ce soit vraiment en arrière-plan, toutes les souffrances qu'elles ont subies. Et je voulais dire aussi une petite parenthèse par rapport au cabaret, c'est que le cabaret dont il est question a vraiment existé. Il s'appelait véritablement l'Enfer et il était le cabaret principal à Vienne, qui a ensuite fermé au moment évidemment du nazisme et qui a ensuite rouvert dans les années 70, refermé. Enfin, c'est un cabaret qui a eu une importance.
Lisa Wurmser, vous l'avez évoqué, vous parlez d'exil de manière, en filigrane, puisqu'il s'agit là de l'histoire de femmes qui reviennent d'exil et qui retrouvent notamment Monsieur Lust, qui, elles ne le reconnaissent pas au début d'ailleurs, c'est lui qui les reconnaît.
Lui, il sait qui il reçoit. Lui, il sait très bien qui sont ces femmes, puisqu'il organise une soirée d'hommage à ces femmes, de restitution des titres.
C'est censé être la ville de Vienne qui organise cette
soirée. Oui, c'est
censé
être la ville de Vienne, et lui est délégué par la ville de Vienne pour le faire. Et il va se retrouver, finalement, assez seul pour remettre ses médailles. Et lui, il sait très bien qu'il va les blesser. Et il a un lien affectif avec cette histoire.
Et c'est aussi un conseiller municipal, donc. Et il a cette fonction-là, parce que personne ne veut s'occuper de cet hommage. Ça embête tout le monde, en fait.
Il n'y a pas eu d'hommage, alors...
Alors, il y a eu un hommage, mais très... on a organisé toute une journée pour elles. Et le soir, on les a effectivement emmenées dans un cabaret où il y avait des chansons de leur époque. Et il y avait même une chanson que je n'ai pas mise dans le spectacle parce que ce n'est pas possible. Mais c'était la chanson que chantait le camp de Buchenwald. Donc ça s'appelle la chanson de Buchenwald et dans ce documentaire, il reconstitue cette chanson qui est chantée par un jeune Autrichien aux cheveux gominés blonds. On voit ces femmes et ce monsieur qui les accompagne, qui ont presque un malaise en écoutant cette chanson.
C'était important pour vous, Lisa Wurmser, dans Nage Libre, de garder cette légèreté?
Ah oui, c'était même fondamental. C'était vraiment le centre du projet parce que je voulais montrer un autre axe de ce qu'on avait l'habitude de voir et d'entendre. Et parce que c'était aussi un hommage à ces femmes qui étaient à la fois très courageuses et en même temps très drôles, qui avaient un humour extraordinaire. Et c'est aussi l'humour d'Europe centrale qui est très, très particulier, qui est à la fois ironique et mélancolique.
Oui, on rit du pire éviter de le vivre, et parce qu'on l'a vécu aussi.
Et Billy Wilder en est un très bon exemple, puisqu'il était juif autrichien, il a quitté Vienne pour les États-Unis, et il a fait beaucoup de blagues à ce sujet.
Alors, petite question qui concerne les coulisses, comment on travaille avec ces trois Rolls, plus une autre Rolls que vous êtes, Nicolas Struve? Comment est-ce qu'on arrive à travailler avec des comédiennes qui ont... tellement de vécu.
Alors, je sais pas, j'aimerais bien laisser la parole
absolument
à Nicolas là-dessus.
Alors, on peut les citer à nouveau. Hein,
c'est Francine Berger, c'est Flore Lefebvre-Desnouettes et Bernadette Le Sachet. Je voudrais juste dire que comme ce sont des Formule 1, on peut dire, il y a peu de choses à... Je veux dire, ça a été une complicité, vraiment un échange sur ce que ça raconte, sur l'écriture... Plus qu'une direction, c'est impossible. On ne dirige pas ces grandes actrices de la même manière que, des jeunes qui sortent d'une école. C'est autre chose. On a parlé beaucoup de l'univers.
Alors Nicolas Struve, de l'intérieur, il vous reste une petite minute pour me raconter les coulisses du travail avec ces trois comédiennes.
Il y a des équipes dont j'aime dire qu'elles sont ambitieuses au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elles sont pas ambitieuses. Bien sûr, chacun cherche à apparaître, etc. Mais c'est des équipes constituées de gens qui ont envie qu'il se passe quelque chose sur le plateau, qu'il se passe quelque chose de merveilleux pour le public, en tout cas de fort. Et ces équipes-là travaillent pour qu'il se produise quelque chose dans un spectacle, quelque chose qui reste dans la mémoire des gens. Et Francine Berger, Bernadette Le Sachet et Flore Lefebvre-Desnouettes sont des gens comme ça qui travaillent pour le théâtre.
Lisa Wurmser, vous travaillez aussi pour l'histoire, puisqu'il y a une réplique qui marque dans votre pièce. Il n'y aura plus jamais de fascisme, dit l'une, il faut quand même préparer sa valise, dit l'autre.
Oui, je crois qu'il y a en ce moment une grande inquiétude, et pas seulement pour les Juifs en France, mais pour l'ensemble, je crois, des émigrés en France. Et cette inquiétude, c'est ce qui m'a fait faire le spectacle aujourd'hui, alors que pendant quelques années, je me disais, c'est pas le moment, peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est une vraie question que les artistes se posent, il ne faut pas croire qu'ils soient superficiels là-dessus. Ils se posent la question, est-ce que c'est le bon spectacle au bon moment? Mais pas dans le sens commercial, dans le sens profond. Est-ce que la pensée de ce spectacle correspond à quelque chose aujourd'hui?
Alors je pense que vous avez tout à fait raison, Lisa Wurmser, à l'aune du plaisir qu'on a eu à voir ce spectacle. Lisa Wurmser, Nicolas Struve, merci.
Quand il faut se déraciner et penser sa vie dans l'ailleurs, on a sa langue et sa fierté comme seul barrage contre les peurs. L'idée d'un éventuel retour vient se coller à tous mes rêves. Partir, rester, mourir, je cours sur deux chemins sans une trêve. Je me sens comme un cerf-volant, mais je ne sais plus qui tient le fil. Ma terre, mes fantômes, les vivants. Ma vie ne tient qu'à un exil. Ma vie ne tient qu'à un exil. Oh oh oh. Oh oh oh. J'ai dû éloigner mes pas, j'ai serré fort mes souvenirs, mais j'ai perdu des bouts de moi. Je ne peux pas tout retenir. Je m'envole pour sauver ma peau. La mer et les hommes s'y opposent. Mon courage n'a pas de drapeau. J'ai choisi la métamorphose. Je me sens comme un cerf-volant, mais je ne sais plus qui tient le fil. Ma terre, les fantômes, les vivants. Ma vie ne tient qu'à un exil. Ma vie ne tient qu'à un exil. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Je me sens comme un cerf-volant, mais je ne sais plus qui tient le fil. Ma terre, mes fantômes, les vivants. Ma vie ne tient qu'à un exil. Ma vie ne tient qu'à un exil. Oh oh oh. Oh oh
oh. Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Un grand plateau au milieu duquel trône un piano à queue et deux pianistes. L'un échevelé et l'autre sorte de compositeur torturé à la Chopin. Ils sont confrontés à l'arrivée d'une étrangère, une violoniste. C'est le début des aventures des virtuoses en pleine tempête. Nous sommes allés les interviewer dans leur loge avant le spectacle. Mais avant ça, un extrait des virtuoses en pleine tempête, le spectacle qu'ils donnent au Théâtre des Nouveautés. On les a découverts alors qu'ils en sont à leur deuxième spectacle, après avoir écumé les routes de France et d'ailleurs. Ils sont au Théâtre des Nouveautés. Ils nous reçoivent dans leur loge, enfin dans la loge de l'une d'entre eux, eux c'est Mathias et Julien Cadez, et dans leur duo fraternel, ils se sont adjoints la présence talentueuse d'Anna Gagneur. On va commencer par le commencement, les virtuoses en pleine tempête, c'est un peu la rencontre sans parole entre des touches noires et blanches et des cordes. Mathias Cadez, c'est vous qui avez le micro.
Oui, c'est exactement ça. À la base, c'est deux personnages en noir et blanc, un peu à la Chaplin, effectivement, qui sont ensemble en train de tenter d'écrire une œuvre en commun. Sauf que ça ne fonctionne pas comme prévu. Ils sont vraiment échec sur échec sur échec. Et un soir de tempête, une mystérieuse violoniste va faire irruption dans leur quotidien.
Alors, on vient d'entendre un extrait plutôt apaisé entre les trois instruments. Mais au début, ça frotte un peu, hein, Julien Cadez.
Oui, oui, c'est dans leur imaginaire, c'est un tout nouvel instrument. On imagine que c'est deux
menaçant,
pianistes.
Hein.
Oui, voilà, on imagine qu'ils n'ont jamais découvert cet instrument. Et que voilà, cette étrangère qui arrive dans le noir, sous la pluie, vient vraiment faire éruption. Et du coup, c'est cette rencontre avec l'étranger, avec l'inattendu, avec la surprise qui les déstabilise, mais qui va se révéler être salvateur.
Alors justement, la surprise, c'est vous, Anna Gagneur. Vous êtes la violoniste. Comment est-ce qu'on arrive dans un duo artistique et humain aussi soudé? Ils se connaissent depuis toujours. Et vous arrivez?
Complètement par hasard. C'était pas du tout prévu. Et c'est l'idée de Julien et de Mathias pour ce deuxième spectacle d'inviter un troisième personnage, un nouvel instrument. L'idée du violon, elle est venue assez naturellement et ils ont pensé à moi tout de suite. Je fais partie en fait de la même famille, je suis la petite cousine de Julien et Mathias, donc ils ont gentiment pensé à moi directement et je dois dire que le trio fonctionne à merveille.
Oui, parce que dans la musique classique, le duo entre le piano et le violon, c'est quelque chose d'assez commun finalement.
Ah bah oui, totalement. C'est vrai que c'est Mathias. Un répertoire qui est venu très naturellement pour vous en se disant bon, on avait découvert tout ce qu'on pouvait faire avec le piano à quatre mains. Et là, pour ce nouveau spectacle, on s'est dit mais si on rajoutait un instrument, effectivement, l'harmonie qui peut régner entre le piano et les pianos, parce qu'en l'occurrence, on a deux pianos sur scène et le violon, nous permet d'avoir un répertoire extrêmement riche et aller encore plus dans l'imaginaire et dans la folie de l'histoire.
Julien Cadez, justement, on parle des deux pianos. Vous avez chacun le vôtre. Vous êtes Julien sur un piano avec eux et Mathias sur un piano droit. C'était important de représenter les deux instruments. On va expliquer les petits secrets au public. Ce sont pas des vrais pianos acoustiques parce que vous en faites des choses qu'un piano acoustique ne pourrait pas supporter. Alors c'était important de représenter ces deux formes de piano là.
Oui, parce qu'il y a un instrumentiste qui est mon personnage, qui est vraiment l'académique rigoureux.
On va parler des personnages, voilà. Hein, tout à l'heure.
Et donc son instrument est bien sûr dans les formes classiques du piano à queue, il est bleu glacial, quelque chose d'assez froid, alors que le second pianiste est beaucoup plus libre, c'est l'improvisateur, et donc on lui a affublé un piano très mobile, d'ailleurs un piano droit très mobile, couleur bois, chaleureux, qui représente plutôt l'univers de la nuit et de l'improvisation. Et c'est aussi une manière de montrer ces deux monstres, parce que c'est comme deux instruments très lourds, face à la fragilité du petit violon, qui pourtant est celui qui va mener la danse. Et c'est vraiment un choc de titan entre ces instruments.
Alors maintenant que je vous ai en face, j'ai envie de revenir sur votre CV, à vous les frères Cadez, hein, parce que quand on gratte un peu, vous avez tous les deux commencé le piano à 5 ans, hein, Julien et Mathias, et vous êtes nés dans une famille d'artistes.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait,
c'est Mathias qui parle.
On a la particularité d'être né dans une famille de magiciens. Donc tout petit, on avait notre papa qui faisait disparaître notre mère, la couper en deux le week-end. Il y avait des colombes qui apparaissaient. Donc vraiment, on a vécu là-dedans tout petit. Donc on s'amusait à les faire fouiller dans les tiroirs, dans le grenier, pour découvrir comment ça marche ça, etc. Et en même temps, en fait, on a commencé le piano à l'âge de 5 ans.
Dans le Nord, hein, c'est ça.
Dans le Nord, effectivement.
Vous avez fait le conservatoire de Lille.
C'est ça, le conservatoire de Lille. Et on a suivi notre cursus classique donc pendant jusqu'à nos 18 ans. Et à ce moment-là, en fait, on a eu l'idée de se dire, allez, si on mélangeait un peu l'ensemble, la musique, la magie, et en fait, naturellement, le théâtre est venu aussi se greffer pour raconter une histoire avec tout ça.
Alors, Julien Cadez, vous êtes le frère aîné, vous avez 8 ans de plus que votre frère, on a dit son âge, pas de raison de cacher le vôtre. pareil, pas de carrière classique tout de suite.
Eh bien, après le prix de Lille, moi, j'ai mis entre parenthèses quelques années la musique classique pour m'intéresser intéressé au métier de la production, de la culture, et j'y suis revenu à l'artistique.
Vous êtes diplômé d'une école de commerce.
Oui, c'est ça, et pour lequel j'avais fait une spécialité sur l'administration de la culture, ce qui m'a aidé beaucoup après quand il a fallu créer la compagnie et la diriger, parce que il suffit pas d'avoir l'idée artistique, faut aussi les structures qui vont bien.
Alors j'ai interrogé la Benjamine et l'artiste invité Anna Gagneur. Vous, c'est le cursus, donc démarrage du violon à 8 ans.
C'est ça, ensuite j'ai bougé de Romans-sur-Isère à Lyon, puis à Paris, j'ai terminé mes études là-bas, et puis j'ai enchaîné sur quelques années d'enseignement en école de musique, chose que j'adore et que je fais encore un petit peu. Et voilà, ensuite la découverte de ce nouvel univers du spectacle.
Alors justement, on va revenir au spectacle. Pour moi, le spectacle, il est intéressant, non pas parce que vous faites des cabrioles musicales, rien que ça, ce serait déjà extraordinaire, mais parce que vous faites exister trois vrais personnages. Il y a vous, Julien Cadez, vous êtes la plume créatrice, hein, lunettes, allure de Chopin du 19e, griffonnant des pages à la recherche de l'inspiration. C'est
oui,
ça.
C'est ça. C'est le personnage qui porte le projet d'écriture, qui est créatrice.
Il n'est pas content de lui.
Très insatisfait.
Il y a des partitions partout.
Oui, oui, et peut-être qu'elles sont très bonnes, mais en tout cas pas à ses yeux. Et son camarade essaye de l'aider. Mais oui, on est dans une tension créatrice à son paroxysme et qui va exploser avec l'étincelle du violon, justement.
Mathias Cadez, vous êtes le personnage un peu plus fantaisiste, hein ?
C'est ça. Moi, je suis un peu le compagnon de route qui veut toujours avoir des bonnes idées, mais en fait, qui ne sont pas tout à fait justes, ou alors elles sont complètement décalées.
Vous faites de la magie sur scène.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un personnage qui adore s'amuser, qui adore le regard du public. En fait, dès que le public le regarde, il est très impressionné. Donc voilà, il a
un petit geste. On va pas dire quel geste
oui,
il a,
ça,
mais quand il est content de lui, il a un petit geste.
Quand il est fier de lui, il le fait bien sentir au public et ça fonctionne toujours. Mais oui, c'est un personnage qui est. Si j'étais un animal, je serais un chien avec des gros poils.
Un chien fou.
Des câlins. Oui, c'est ça.
Un chien fou.
Complètement à l'inverse de Julien, qui serait plutôt un chat hystérique. Qui ne veut pas qu'on se rapproche de lui. Oui, c'est ça.
Alors là, les batailles fraternelles après l'interview. Anna Gagneur, vous êtes l'intruse dans le duo. Vous opposez la puissance de votre archet au stéréotype de la jeune violoniste souffreteuse, parce que vous arrivez toutes de cuir vêtu et vous menacez de votre archet ces deux pianistes terrorisés. Ils sont terrorisés quand vous arrivez sur scène.
Ils sont terrorisés et en réalité, mon personnage l'est un peu aussi. En fait, c'est une violoniste solitaire qui n'a pas l'habitude de partager le quotidien avec d'autres musiciens. Et donc, elle se retrouve aussi forcée de cohabiter. Et donc, elle est complètement prise aussi dans le tourbillon. Et son caractère agressif ne va parfois pas servir la situation, bien au contraire.
Alors, Mathias ou Julien Cadez, celui qui veut, c'était important d'outrer les personnages et de les caractériser à ce point.
Oui, c'était important, puisque on voulait aller au-delà de la blague et de l'humour, et on voulait vraiment raconter une histoire. Puisqu'on avait le sentiment, avec le premier spectacle qu'on a joué plus de 10 ans, dans plus de 600 villes, d'avoir fait un peu le tour de la cabriole musicale, et on a eu envie vraiment là de raconter une histoire, aussi pour aller chercher des émotions qu'on a du mal à aller chercher dans l'humour musical, qui était notre premier spectacle. Donc là, on peut aller chercher grâce à ça des évolutions de personnages et de la tendresse et des regrets et de l'admiration, de la férocité aussi. C'est ça que ça nous offre, la dramaturgie dans ce spectacle. Et c'est pour nous un vrai plaisir aussi de traverser. Quand on le joue tous les soirs à Paris, le fait de traverser l'histoire nous aide aussi à découvrir tous les soirs notre spectacle grâce à cette histoire.
Mathias, vous avez une donnée que, bah, on a compris, héritée des parents illusionnistes. Vous êtes le magicien sur scène, on l'a dit tout à l'heure. Et vous allez chercher dans votre clown, parce qu'il y a de ça aussi.
Oui.
C'est pluridisciplinaire. Vous êtes des musiciens hors pair, vous êtes des clowns, vous êtes des prestidigitateurs. Donc vous allez chercher dans votre clown, comme on dit.
Exactement, bah oui. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de formations sur l'art clownesque, justement. Et c'est quelque chose qui transparaît énormément. Parce qu'il y a un vrai rapport à l'enfance et au retour à l'enfance, juste avec cette émotion brute d'avoir le plaisir d'être sur scène, de voir comment réagit le public et effectivement le personnage qui, quand l'étrangère arrive, la violoniste fait éruption, veut l'accueillir, veut lui donner à boire, mais forcément il va pas le faire d'une manière classique, il va vouloir en même temps faire son petit spectacle et voilà, et réagir par rapport à ça et voir comment le public aussi réagit.
Alors on l'a dit, les virtuoses sont en pleine tempête, alors illustration avec un nouvel extrait, cette fois-ci c'est avec du Mendelssohn.
Thank you.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Et dans Radio Scénique, on parle des virtuoses en pleine tempête. Et nous sommes avec Mathias et Julien Cadez, les deux initiateurs et pianistes, mais pas seulement. Et avec Anna Gagneur, violoniste, mais pas seulement. Il faut être clair, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, parfois vos instruments ils sont un peu soutenus par une bande enregistrée. Hein.
Oui, effectivement.
Cette tempête-là, pour avoir toute la puissance, vous avez le recours de vos instruments, évidemment, qui sont amplifiés, hein, pour que le son en soit perceptible partout dans la salle. Mais aussi, vous avez cette bande enregistrée. C'est quoi ce choix musical que vous avez fait ?
Alors, il y a un vrai choix, notamment sur la fin, par rapport à cette tempête.
Mathias Cadez.
C'est de pouvoir justement travailler avec les bruits de l'environnement, de la pluie, de l'orage, du tonnerre, et de comment ils vont créer une musique, alors que c'est la pleine tempête tout autour d'eux. Donc, effectivement, la bande est aussi un soutien. Et ça, on l'utilise assez souvent, notamment sur la fin du spectacle.
Julien Cadez, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, j'allais dire aussi que les bandes, par exemple, orchestrales qui viennent au moment du tutti du concerto pour violon de Mendelssohn sont là pour marquer la puissance des vents, par exemple. Là, c'est le moment où le vent, d'un coup, déferle sur scène, gonfle la voile et fait avancer le bateau. Et pour nous, c'est tout simplement l'imaginaire aussi de la puissance musicale qui vient souffler sur l'embarcation. Donc, on n'a pas de souci à additionner comme ça. Puis, on sait aussi que le public saura faire la différence entre, par exemple, la première partie du concerto qui est absolument piano-violon et le tutti où d'un coup il y a parce que c'est l'imagination qui vient et on a cette liberté aussi de jongler entre du direct et parfois du soutien en bande orchestrale.
C'est un peu votre marque de fabrique, Julien et Mathias Cadez, d'attaquer un répertoire classique, Bach, Massenet, Vivaldi, Saint-Saëns, en mettant quelques ingrédients un peu plus contemporains comme Hans Zimmer ou John Williams, hein. Julien ou Mathias Cadez, voilà, il se demande qui va parler, c'est Mathias finalement.
Oui, justement, par rapport à ça, c'est vrai que là, on parle d'un tableau en pleine mer, où on va partir sur des univers plus classiques. Il y a la Moldo aussi, qui a quelque chose de très aquatique dans les arpèges, mais qui va se mêler petit à petit avec le thème de Pirates des Caraïbes, tout en ayant la base de la Moldo. Donc, comment on arrive à jouer entre ces deux thèmes? Et ensuite, on va faire un clin d'œil à Renaud et les petits bateau et ensuite le Mendelssohn.
Justement, comment vous avez choisi ce répertoire? Il y a combien une trentaine d'extraits que vous interprétez en
facile,
en
écoutant, en fait, en se laissant un peu bercer par l'histoire. On va rapidement avoir soit des évidences en disant mais cette œuvre là évidemment ça raconte ça a cette énergie là c'est en fait à partir du moment où la musique devient visuelle dans notre esprit, en général c'est gagné.
Julien Cadez, finalement votre but c'est pas de dire les notes, ce sont des mots, et un mode mineur ou majeur, c'est une humeur. C'est pas ça.
C'est exactement ça. C'est toutes les variations des couleurs de l'âme humaine qu'on retrouve dans la musique. De toute façon, toutes les grandes œuvres ont été faites à partir de cette idée. La particularité, c'est qu'on essaye aussi de penser à tout le monde. Et donc on met régulièrement des clins d'œil à la pop culture, par exemple, à des génériques, à des musiques de films, pour garder la main
sans démagogie, sans démagogie.
Ah voilà,
non, il faut que je le précise très
bien. Et alors quand on arrive en effet, comme le disait Mathias, à garder la base de la Moldao et de rajouter là-dessus Pirates des Caraïbes, alors là c'est un régal parce que ça marche en plus harmoniquement et ça permet de tenir la main de tout le monde parce qu'on a vraiment à cœur cette démocratisation de la musique et donc il faut penser, nous dans l'écriture on y a pensé dès le départ, c'est-à-dire attention à chaque instant, comment on va rattraper quand on va un peu loin dans le classique, comment on va revenir d'un coup sur quelque chose, ah mais ça je connais, ah bah voilà, et ça c'est une porte, c'est une main tendue, c'est une porte d'entrée vers d'autres découvertes.
Anna Gagneur, vous disiez tout à l'heure que vous faites encore de l'enseignement. Quelle plus belle page de pédagogie que d'amener à comprendre la musique pour des gens qui ne la lisent pas ou pas encore.
Oui, c'est exactement ça que j'essayais aussi et que j'essaie encore d'enseigner à mes élèves, c'est d'avoir des images qui viennent de plus en plus naturellement quand on joue de la musique, quand on en écoute, et grâce à ça, de développer aussi sa propre technique sur l'instrument, son propre son.
Mais vous les mettez les images sur ce spectacle, vous les mettez sur ces notes, ces images.
Oui, c'est ça. Il y a l'interprétation qui joue. Il n'y a pas que le morceau, effectivement. Il peut y avoir des vagues dans un morceau. C'est à nous, musiciens, d'exagérer ces mouvements-là pour faire ressortir toute la beauté et tout le visuel, justement.
Bah justement, Anna Gagnure, pendant que vous avez le micro, petite question un peu technique. Le spectacle, il comporte une dramaturgie qu'on ne va pas révéler tout à fait, mais qui suppose de jouer dans des conditions un peu extrêmes. Ça met à mal votre bel instrument.
C'est vrai qu'il est bien, bien surmené, mais tout le monde en prend soin.
Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre instrument. C'est un violon de quand, de quelle époque hein.
C'est un violon récent de Pierre Lamotte, qui l'a créé en 2018 ou 2017. Et moi, je suis tombée amoureuse de ce violon en 2020. Je cherchais justement un violon avec un son à la fois chaleureux, à la fois assez brillant. Et vraiment, celui-là correspondait totalement à ce que je cherchais.
Alors, on va laisser un tout petit instant pour qu'Anna Gagnure se saisisse de son instrument. Voilà, c'est fait. Et pour qu'elle nous donne en solo un extrait de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, depuis sa loge du Théâtre des Nouveautés à Paris, où elle joue les virtuoses.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mathias et Julien Cadez, vos instruments à vous, vos deux pianos, ils en prennent plein la figure, notamment le vôtre, Julien, vous êtes au piano à queue et à un moment vous jouez dans des positions qui sont totalement impossibles. Votre piano se retrouve à la verticale.
Oui, il se retrouve à la verticale, le bateau s'échoue et donc se retrouve ensablé aussi, donc se retrouve de trois quarts de côté. Et c'est justement notre petit truc du piano électroacoustique qui a été fabriqué un peu sur mesure pour ce spectacle. C'est pour l'alléger au maximum, en même temps avoir un toucher marteau hyper précis pour pouvoir interpréter les morceaux dans toutes les positions. C'est là aussi une marque de liberté et puis une envie de dire voilà, vous voyez, le piano, c'est pas seulement jouer sagement dans un auditorium. On peut aussi tout à fait imaginer ce genre d'image. C'est le visuel aussi hein, qui nous guide dans ces choses-là.
Alors finalement, tous les trois, vous êtes d'anciens bons élèves qui font un peu de très bons élèves qui font un peu les pitres, Mathias Cadez.
Oui, c'est un peu ça. Moi, je pense que pour pouvoir s'amuser et faire les pitres, c'est vrai que ça demande quand même de maîtriser l'instrument. Je pense au jeu de visage aussi, d'émotion. Donc dans le cerveau, il y a vraiment la partie qui est concentrée sur les doigts, sur la mélodie, et en même temps une autre partie du cerveau qui est sur les émotions et sur les personnages.
Votre spectacle, il est pluridisciplinaire, on l'a dit, il y a de la magie, de la musique, du mime, du jeu. Anna Gagnure, vous n'êtes pas comédienne de profession ni de formation, ça veut dire qu'il faut se sortir un petit peu de sa réserve. Le musicien, il exprime des choses, mais il laisse son violon l'exprimer. Là, vous devez aussi exprimer des émotions.
Ah oui, complètement. Moi, j'avais juste l'expérience de mon visage expressif quand je jouais du violon. Mais là, c'est complètement autre chose. Il faut faire parfois l'inverse de l'émotion qui est jouée pour jouer son personnage. Et moi, je continue d'apprendre en faisant, en regardant, en m'instruisant.
Tous les trois, les ex-enfants qui... encore de grands enfants.
Qui, bah oui, il faut rester de grands enfants.
Qui ont usé leurs doigts sur les touches des pianos et les cordes des violons. Vous avez envie de dire aux vrais enfants, aux petits qui apprennent la musique, regardez, on a énormément souffert, mais ça vaut le coup. Vous voyez, ça peut être rigolo à jouer. Ça fait partie de ce que vous avez envie de dire au jeune public.
Je l'explique souvent aux jeunes pianistes qu'on peut voir dans les salles. Je leur dis, on remerciera jamais assez les heures du matin de Czerny de nous avoir imposé ça, ou les inventions, ou les Bartok. On peut travailler des rythmes, parce que voilà, quand on veut après aller vers la liberté, au plus on a une technique solide, au plus quand on veut jouer et tourner la tête et faire une expression de tristesse ou de joie tout en jouant quelque chose de carré au piano, bah on a besoin de ce bagage là et c'est vrai qu'on les encourage beaucoup, parce qu'on sait, que ce soit pour l'apprentissage du solfège ou des techniques instrumentales, que ça peut être décourageant évidemment pour eux dans l'enfance, et qu'il faut s'accrocher.
Mathias Cadet.
Ce qui est hyper, hyper touchant pour nous, c'est qu'en fait, depuis qu'on fait le projet des Virtuos, c'est qu'on a régulièrement des photos d'enfants qui ont commencé le piano, ou même des grands-enfants, des adultes qui ont repris le piano, et ça fait 3-4 ans, qui retravaillent et qui retrouvent un vrai plaisir d'être derrière l'instrument. Et ça, c'est une vraie fierté, en fait, de constater ça.
Alors, Anna Gagneur, est-ce qu'il y a certains de vos élèves qui sont venus vous voir ?
Ah oui, absolument.
Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de cette espèce de furie ? Vous avez l'air plutôt sympathique. Mais sur scène, vous ne l'êtes pas, parce que vous sentez agressé.
Ah oui, pas vraiment.
Alors vos élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Et mes élèves, ils sont pris dans l'histoire. En fait, je pense pas qu'ils voient leur professeur de violon sur le moment. Ils la voient après, quand ils viennent me féliciter à la fin, et c'est toujours un vrai plaisir. Mais en réalité, non, ils sont complètement dans l'histoire et pris pour les personnages.
Alors pour conclure, je vais juste vous informer que Chopin a vécu dans l'Hôtel Victorien 1832-1833, juste à deux pas du Théâtre des Variétés. Il n'y a pas de hasard.
Non, c'est vrai que Chopin, on arrive à le retrouver régulièrement sur les étapes de vie du projet, et il n'a jamais été très loin. Puis c'est vrai que Chopin, c'est un peu un compositeur de cœur qu'on partage, je pense, en commun.
Oui, puis on a un lien de Chopin à Cortot. Puis à notre première professeure de piano qui avait été élève de Cortot, et du coup elle était elle-même complètement empreinte du romantisme de Chopin. Elle nous expliquait comment on devait jouer avec le gras du doigt, avec le tourment, comment elle nous expliquait la colère qu'il pouvait y avoir dans la révolutionnaire pour cet homme qui était malade, qui aurait voulu aller défendre son pays, mais qui l'a mis dans la révolutionnaire. Ce romantisme-là, je pense peut-être à fleur de peau. Je pense qu'on le revoit très très vite dans le spectacle, et c'est pas pour rien que c'est un spectacle qui est en effet, comme vous disiez, furieux parfois, parce qu'il contient comme ça des émotions très fortes. Donc on a une filiation très forte avec...
Si vous voulez vous laisser porter par des musiciens talentueux, des gens qui font des cabrioles, mais aussi qui sont de bons clowns, qui sont des mimes, des comédiens, venez tout simplement voir les Virtuoses en pleine tempête. Anna Gagneur, Mathias Cadès, Julien Cadès, merci. On va vous laisser parce que vous vous apprêtez à vous préparer pour la représentation des Virtuoses en pleine tempête. On le rappelle, c'est sur la scène du Théâtre des Nouveautés. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
My heart begins to jingle when the bells begin to jingle. Ziggity zing zing, ziggity zing zing. Every time they play the Sabre Dance, my heartbeat tries to capture all the rhythm and the rapture. Ziggity zing zing, ziggity zing zing. Every time they play the Sabre Dance, I love the spell I'm under when the drum begins to thunder. Boomity boom boom, boomity boom boom. Like the tempo of a tropic rain, when I hear trumpets blaring, I can feel adventure flaring. Rat-a-dee-tat-tat, rat-a-dee-tat-tat. I am in a mood I can't explain. I drift to an isle of perfume where summer roses eternally bloom. There, in the golden gleam, waits my one wonderful dream. Music, take me, don't forsake me. Let me be a ship lost at sea, that the winds rock and roll. Whirling, swirling, twirling, out of control. That music drives me crazy, everything becomes so hazy. Drums are booming, cellos zooming, cymbals crashing, sabers flashing in a willy-nilly sort of way. I seem to hear it night and day,
blending in romantic fashion, melody, moonlight, and passion, riding high on heaven's highway.
Purple stars are guiding my way.
I am like a comet whizzing by. Just when I get the feeling that the universe is really,
suddenly the song is ending,
and I find that I'm descending like a star that's falling from the sky.
Toppling, twisting, tumbling, and down and down and down and down and round and round and round and round and down and down and down and down, and I begin to spin into a trance. Every time they play that saber dance.
Fin de ce numéro 30 de Radio Scénique, votre émission traitant des arts de la scène sur Aligre FM 93.1. Merci à nos invités, Lisa Viomser, l'autrice et metteuse en scène, et Nicolas Struve, un des comédiens de Nage Libre. Ne manquez pas Nage Libre et son trio de délicieuses comédiennes, accompagnées de Monsieur Lust. C'est instructif et fort bien écrit, bref, ici à Radio Scénique, on a aimé. Attention, le spectacle se joue seulement jusqu'au 31 mai au studio Héberto. Merci aussi à Mathias et Julien Cadez. Avec Anna Gagneur, ils nous proposent tous trois un tourbillon musical magique et animé. Ça s'appelle Les Virtuoses en pleine tempête. Et c'est au Théâtre des Nouveautés. On a été surpris par l'inventivité et la richesse de ce spectacle. Je vous l'ai dit en début d'émission, on a deux fois une place à vous faire gagner. C'est pour les dates suivantes et seulement ces dates-là. Ça sera pour le jeudi 28 mai, le vendredi 29 mai, le jeudi 4 juin ou le vendredi 5 juin. Alors, si vous êtes disponible à ces quatre dates et uniquement ces quatre dates, envoyez-nous un mail avant jeudi 28 mai à l'adresse suivante radioscénique@aligrefm.org. Nous effectuerons un tirage au sort et préviendrons par mail les heureux gagnants. À vos claviers, je répète. Les virtuoses, mais oui, les virtuoses, deux fois une invitation. C'est un mail à radioscénique@aligrefm.org. Si vous voulez connaître la liste des morceaux programmés ou tout simplement réécouter notre émission de ce jour, c'est sur aligrefm.org, rubrique podcast, émission radioscénique. C'est Pierre Demkov qui a signé la programmation musicale et qui m'a assisté dans la préparation de cette émission. Merci à lui. Un grand merci renouvelé au technicien du jour qui a œuvré derrière la vitre. Merci à Enrico Mastrogiovanni qui a assuré la réalisation technique aujourd'hui. Et cette émission n'aurait pas été possible sans le support technique du moment qui nous accueille dans ces studios. Merci à eux. On se retrouve dans deux semaines. Rappelons que Radio Scénique est diffusée les 2e et 4e lundi du mois. En attendant de se retrouver, allez dans les salles voir du théâtre. C'est là qu'est la vie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.